Le vrai courage consiste à vivre quand il est juste de vivre, à mourir quand il est juste de mourir.
L'esprit chevaleresque, deuxième épisode, les samouraïs.
Le courage, l'esprit d'audace et la maîtrise de soi.
Bushido, l'âme du Japon.
La bienveillance et la compassion.
Le code d'honneur du samouraï.
La vérité et la sincérité. L'honneur. Le devoir de loyauté. Le contrôle de soi.
La marche de l'histoire. Jean Lebrun sur France Inter.
Avec aujourd'hui Julien Pelletier, bonjour.
Bonjour Jean Lebrun.
Votre avant-dernier livre, Le crépuscule des samouraïs, le dernier était consacré à 10 portraits de samouraïs. Votre avant-dernier livre est préfacé par Daniel Elisséeff qui dit « Petite, je voyais la guerre. J'avais 4 ans, donc j'étais à hauteur de bottes de soldats et d'officiers. Je voyais les couteaux dans les bottes. Ne comptez pas sur moi pour exalter l'esprit samouraï. » Et cependant, vous, jeune homme, vous vouliez constituer un clan de samouraïs ici en France au début des années 2000?
Oui, oui, en effet, c'était une idée quelque peu excentrique qui a donné lieu à la constitution d'une association qui a essaimé un peu partout en France pendant quelques temps. Nous avons rencontré notre, quoique modeste, mais un certain succès. Nous avons pu intervenir un peu partout lors de conventions. Vous savez que la culture japonaise est la culture populaire japonaise connaît un engouement certain en France. Et puis voilà, c'était cette idée de renouer avec une certaine forme d'idéalisme emprunté au Japon, un humanisme qui se voulait universel et que l'auteur du livre dont vous avez cité un extrait tout à l'heure avait lui-même largement contribué à propager au tout début du XXe siècle.
On parlera du Bushido dans un instant, c'est en effet un code assez tardif. Alors vous avez commencé par des études d'art appliqué, vous aviez du samouraï, une image esthétique et vous êtes mis à faire de l'histoire.
Oui,
et ça a changé votre point de vue.
Et oui, en effet, c'est vrai que j'ai commencé par rencontrer le samouraï sous sa forme fantasmée, idéalisée, en particulier sous la plume de Yoshikawa Eiji, qui a romancé la vie du grand Miyamoto Musashi, hein, sans doute le samouraï le plus célèbre, en tout cas celui que les Japonais et les autres, et les étrangers d'ailleurs, connaissent le mieux à travers de nombreux films, romans, adaptations diverses. Mais cette vision très romanesque, il m'a fallu ensuite la déconstruire patiemment, partir à la rencontre de la réalité du samouraï un peu plus crue, un peu plus sanguinaire.
Il ne vous sera pas interdit, Julien Pelletier, de dater tous ces personnages que vous connaissez intimement, même si notre émission, qui va être très simplificatrice, va écraser les distances du temps, les différences considérables entre les époques. On va insister, comme vous, dans le crépuscule des samouraïs, sur la période qui, de la fin du 15e à la fin du 16e, correspond à l'époque des provinces en guerre, peut-être le zénith pour les samouraïs. Cependant, quand même, un mot sur ce qui s'est passé avant. Le pouvoir impérial se délitait peu à peu, la guerre approchait, la cour impériale, et les pouvoirs ont été transférés très nettement à partir du XIIe siècle dans les familles des shoguns, c'est-à-dire des premiers ministres, des chanceliers, des souverains de substitution.
Alors le shogun, c'est la contraction de Seitai Shogun, c'est-à-dire le grand général qui soumet les barbares de l'Est. C'est un mandat au départ délivré pour un temps déterminé, mais qui va devenir effectivement héréditaire à compter de l'avènement de la première dynastie shogunale, du premier bakufu, de ce qu'on va appeler le bakufu, c'est-à-dire le gouvernement sous la tente, pour bien le démarquer du gouvernement des palais et des délices de la cour de la capitale impériale. Et ce gouvernement, effectivement, il va progressivement déposséder l'administration, la haute administration civile, de ses prérogatives.
Et les guerriers vont jouer un rôle considérable. Autant la Chine est longtemps mandarinale et bureaucratique, autant le Japon voit jouer un rôle décisif à la classe des guerriers. On parlait hier avec Martin Aurel de la naissance des chevaliers. Ils sont très anciens, les samouraïs. Ils sont contemporains aussi de nos chevaliers, avec un océan de différence.
Oui, alors les différences sont très nombreuses. Elles s'établissent sur plusieurs niveaux. Il y a un niveau numérique qui est quand même extrêmement important. Là où la noblesse d'épée n'a jamais excédé 1%, voire moins, dans la plupart des grandes nations européennes, dans le Japon médiéval, la norme est plutôt autour des 10%, et parfois la proportion est même plus importante, notamment dans la province du Satsuma, qui est un petit peu la Sparte japonaise, on va dire une province très, très connue pour ses traditions militaires. Et donc, partant, la classe des samouraïs est extrêmement hétérogène. Souvent, les différences à l'intérieur même de cette classe sont plus importantes que par exemple, à l'intérieur de la classe des marchands qui regroupe moins d'individus.
L'armement évolue. Je dis que nous courons le risque d'écraser le temps. Enfin, au début, cavalier archer. Progressivement, l'arrivée du sabre, auquel nous autres avons tendance à assimiler les samouraïs, les sabres fabriqués par des forgerons qui eux-mêmes peuvent appartenir à des dynasties bien connues, et on s'intéresse à la fois, tout en même temps, à la forme de la lame, à la ligne de trempe, au grain du métal.
Ma famille est une famille de forgerons. Je suis la 25e génération. Nous remontons à l'époque Muromachi. On fait le feu dans le four. On ne mesure pas la température. C'est l'observation de la flamme qui nous indique à quel moment battre le fer. Les flammes sont les mêmes qu'autrefois. Et je sens dans le feu la perpétuation du savoir-faire. Pour nous, dans la flamme, il y a la transmission de la tradition et aussi une manifestation divine.
Le chant du forgeron tel que restitué à l'époque du Japon impérialiste à la fin de la Deuxième Guerre mondiale. On entendait hier, Julien Pelletier, notre invité, expliquer que Roland, le chevalier modèle pour l'Occident, tenait pour plus important Durandal, son épée, que sa fiancée et même Dieu, et le sabre du samouraï.
Le sabre est l'âme du samouraï, hein, on l'a dit, on l'a écrit, on l'a commenté très longuement. Il convient toutefois de préciser que le sabre ne s'impose que tardivement. Très longtemps, le samouraï est d'abord un cavalier archer. Et ce qui le distingue dans sa pratique martiale, c'est l'archerie équestre. Hein. Vraiment, il s'agit pour l'essentiel, du point de vue, disons, tactique, de duels sur le champ de bataille qui opposent de petits groupes, dont les champions, les chefs, sont ces guerriers caparaçonnés, armés d'un arc.
Et ensuite, le sabre va avoir peut-être moins d'importance parce que, au temps auquel nous allons nous arrêter, la période des provinces en guerre, des armes nouvelles apparaissent vers le milieu du XVIe siècle. Ce sont les armes qui sont vendues par les Occidentaux, par les Portugais, par exemple, qui abordent à l'archipel.
Oui, c'est ça. À l'issue d'une sorte de naufrage, en fait, d'un navire dont l'équipage fait encore un petit peu débat, mais qui comporte en tout cas quelques Portugais à son bord, eh bien, le christianisme et surtout l'arquebuse font leur entrée au Japon, par le sud de l'archipel, dans un premier temps, par l'île de Kyushu. Et puis, très rapidement, les seigneurs de guerre se rendent compte du potentiel létal de cette nouvelle arme, la copie. Et la fabrique dans des copies d'ailleurs souvent de qualité supérieure à ce qu'on peut trouver simultanément en Europe contemporaine, et même à des tirages. C'est une espèce de proto-industrialisation, une espèce de mini lobby militaro-industriel qui se met en place.
Les seigneurs de guerre, à cette époque, la période des provinces en guerre, les shoguns voient leur pouvoir se déliter, une décentralisation de fait s'installer, et des daimyo, des ducs, des chefs de province, mais il peut y en avoir plusieurs dizaines, s'autonomiser.
Oui, compte tenu du fait que à ce moment-là de l'histoire, c'est-à-dire là on parle en gros du XVIe siècle, Le statut de Daimyo n'a pas été extrêmement bien, n'a pas encore été codifié. Le statut va couvrir, on va dire, l'ensemble du spectre de la grande féodalité européenne. C'est-à-dire que de baron à duc, on peut se réclamer Daimyo. Le Daimyo est un grand nom. Les profils sont très très variés. Certains héritent d'une, certains sont les héritiers plutôt d'une dynastie très ancienne qui avait prospéré depuis plusieurs générations ou plusieurs siècles. C'est le cas par exemple dans le sud, à Kagoshima, que j'évoquais tout à l'heure. Et puis d'autres partent un petit peu de rien, ce sont des sortes de condottieri, qui sont d'ailleurs leurs contemporains italiens. Hein. Donc ils se forgent un peu à la pointe du sabre un domaine, une principauté, quasiment en tout point autonome.
Les paysans peuvent être fort mécontents de leurs conditions, des conditions qui leur sont faites par leur suzerain, et on voit même, vous insistez beaucoup là-dessus dans votre crépuscule des samouraïs, des ligues paysannes, allez, on est dans l'anachronisme parfois, autogestionnaires, se constituer, qui peuvent faire appel pour leur défense à ces si nombreux samouraïs de conditions diverses, qui peuvent être des pauvres, qui auraient intérêt à devenir des mercenaires. Nous sommes ici dans le film Les 7 samouraïs, Lion d'or à la Mostra en 1954.
Je vais vous expliquer. Nous devons combattre des bandits.
Pour quel clan ?
Notre employeur, en réalité, est un village de paysans. Un travail sans solde ni récompense. Sauf 3 bons repas par jour.
C'est stupide. J'ai d'autres ambitions.
Désolé. C'est définitif.
Je refuse.
En fait, c'est une période d'anarchie. Les empereurs dépossédés mais survivants dans leur cour, les shoguns dépossédés et qui doivent laisser beaucoup de leurs prérogatives aux grands, au grand nom, et puis la poussière, la dissémination des communautés et des guerres.
Mmh. Là, c'est peut-être l'occasion de refaire un parallèle avec nos chevaliers européens. Le statut du samouraï ne sera codifié lui aussi qu'à compter du début du XVIIe siècle. Auparavant, c'est une classe, une catégorie sociale assez poreuse. Hein. Toute personne qui montre des prédispositions, des talents martiaux et qui dispose des moyens de se procurer une arme peut se hisser grâce à ses talents à travers la hiérarchie sociale. On évoquera peut-être le personnage de Hideyoshi qui est l'exemple le plus édifiant à cet égard. Et ces Jizamurai, c'est-à-dire ces petits samouraïs des campagnes, souvent guère mieux lotis que les fermiers avec lesquels ils résident au sein du village, eh bien sont des alliés tout trouvés dans ces organisations beaucoup plus horizontales qui défient en effet un pouvoir féodal dont ils contestent le pouvoir puisqu'il les a dont ils contestent l'autorité puisqu'il les a plus ou moins abandonnés à leur sort et à ce chaos que vous décrivez.
Porosité, mobilité, chaque samouraï peut avoir dans sa giberne un bâton de grand nom, de daimyo, voire davantage. Alors vous insistez beaucoup sur ce personnage dont vous venez de citer le nom, Hideyoshi, qui est d'abord apparu dans l'entourage d'un daimyo mineur, qui lui-même s'était hissé au sommet, Nobunaga. Et voici votre héros, parce qu'il occupe plusieurs pages dans votre livre, qui a une vraie face de singe et une apparence assez repoussante, qui grimpe tous les échelons.
Oui, c'est le singe, c'est ainsi que le surnomme son maître et celui qui va entamer la réunification du pays, Nobunaga, que vous avez cité. Et ce singe, il est parti de rien, ses origines sont assez obscures, et comme c'est un homme, un grand stratège, un homme d'état de premier ordre, eh bien, il va lui-même largement contribuer à écrire sa propre légende une fois parvenu au fait du pouvoir. Alors, c'est un personnage tout à fait fascinant, hein, qui résume à lui seul presque cette période.
On est à l'extrême fin du 16e, là, voilà, dans les années 1580.
Il naît, a priori, voilà, en 1536, bien que sa date de naissance fasse débat également. et il va voir toutes les grandes transformations sociales à l'œuvre quand il n'en sera pas même le principal artisan. C'est à la fois un grand séducteur, il aime à s'entourer des femmes, des grands-pères de l'Empire, des grands féodaux qui l'entourent. C'est aussi une manière, bien sûr, de montrer son pouvoir. Il se pique d'écrire des pièces de théâtre qu'il joue lui-même. Il s'adonne à la cérémonie du thé, voilà, oui. Qui était à l'époque non seulement un loisir, mais surtout un moyen aussi de nouer des alliances, d'effectuer des rapprochements politiques dans la petite pièce prévue à cet effet, la toute petite pièce autour de laquelle à l'intérieur de laquelle on se retrouve autour de la théière.
Mais son but, c'est aussi de rendre le Japon plus grand en l'unifiant. Et une fois l'unification à peu près assurée, de rendre le Japon plus grand en attaquant la Corée. Et quand on dit la Corée, on dit la Chine.
Il y a une dimension mégalomaniaque chez Hideyoshi, incontestablement. Certains de ses biographes ont interrogé d'ailleurs l'éventualité pathologique. Pour l'instant, ça fait encore là aussi l'objet d'un débat qui sera sans doute jamais complètement tranché.
Bref, mais est-il mordément ou pas, quoi, c'est ça.
Voilà. Oui. Voici qu'en effet, à la fin, au tout début de la décennie 1590, l'œuvre entamée par son prédécesseur est parachevée par Hideyoshi. Donc, le Japon a retrouvé un centre de gravité politique entre ses mains, entre les mains du singe, qui souhaite donc se lancer dans la constitution d'un empire panasiatique. Sa cible, c'est l'Inde, c'est la Chine, et même au-delà, l'Inde, selon certaines lettres qui en attestent. Il se rapproche également des Philippines, qui viennent de passer sous domination espagnole, et dont il espère obtenir le tribut aussi. On a trace de plans d'invasion qui visent à soumettre Manille. Mais sa grande opération, sa grande campagne sera lancée en Corée, pour envahir la Chine. Il ne dépassera, seul un tout petit contingent parmi les troupes dépêchées en Corée parviendra à franchir la frontière chinoise, mais ce sera une guerre extrêmement dévastatrice pour la Corée et qui ne rapportera absolument rien au Japon.
Nous sommes juste avant 1600. C'est pain béni, ça, pour les samouraïs.
Oui, c'est pain béni, bien sûr. Tous ces guerriers qui se retrouvent un petit peu en demi-solde, dans la mesure où les guerres civiles sont terminées, beaucoup espèrent se faire un nom en Corée. Mais de nombreuses voix s'élèvent aussi pour condamner ce projet, en se rendant compte qu'il est sans lendemain, que la Corée ne présente pas de grand intérêt. Beaucoup aussi sont là des guerres civiles. C'est ce qui va faire le jeu du successeur de Hideyoshi.
Mais on reste encore sur l'époque d'Hideyoshi. C'est lui qui, vous dites, les samouraïs vont être en demi-solde, fait la chasse au sabre. Qu'est-ce que c'est la chasse au sabre ?
Son objectif est de désarmer les populations civiles. Il hérite, entre guillemets, d'un pays enfin réunifié qui aspire unanimement, du moins c'est ce que les chroniques laissent paraître, à un retour à la paix, qui favorisera bien sûr le développement économique, le développement culturel. Et pour s'assurer du maintien de la paix, il va falloir désarmer les populations civiles. C'est pourquoi des commissaires parcourent les campagnes pour priver les samouraïs et ces petits guerriers des campagnes de toutes les armes dont ils disposent.
Mais alors, c'est ça qui est très paradoxal dans l'histoire des samouraïs, c'est que leurs mésaventures vont s'accompagner d'une fortune idéologique, comme par réaction. La crainte s'établit de voir les groupes dominants, pacifiés, rendus un peu inutiles, se départir de leur qualité martiale, longuement élaborée, et donc leurs valeurs, on va les proclamer de plus en plus haut et de plus en plus fort. Vous allez nous expliquer ce qu'est le code du Bushido, dont voici un extrait d'une version assez tardive.
Pesez chaque parole avant de la prononcer. Se demander avant de répondre si ce que l'on a à dire est vrai. Manger avec modération. Éviter la volupté. Le faucon ne pique pas les épis même quand il meurt de faim. De même, un samouraï se servant d'un cure-dent fera-t-il semblant de s'être régalé même quand il n'a pas mangé. Un samouraï qui ne serait que fort n'est pas un samouraï. Sans parler de la nécessité des études en sciences, il faut qu'il profite de ses loisirs pour s'exercer à la poésie et comprendre la cérémonie du thé.
La marche de l'histoire. Jean Lebrun sur France Inter.
Avec Julien Pelletier qui a publié chez Economica Le crépuscule des samouraïs. Alors à l'époque où les codes sont mis en valeur, l'horizon c'est la haute culture. Alors que, comme on dit votre préfacière, les samouraïs peuvent faire preuve dans leur histoire d'une force brutale qui consiste à exterminer les rejetons, les enfants de leurs ennemis qui doivent disparaître de l'horizon de la Terre. Il y a le mélange des deux.
C'est assez courant, oui, au cours des guerres civiles, qu'une maison soit complètement anéantie, soit complètement détruite, qu'on passe au fil de l'épée jusqu'au dernier des enfants. Hein, les cas sont assez nombreux. D'ailleurs en exécutant les ordres, enfin parfois ces ordres sont exécutés par des gens qu'on n'imagine pas parvenir à ces extrémités, mais ainsi est l'époque.
Et une fois que cette époque des guerres civiles commence à être oubliée, un vernis est posé.
Ça se fait de manière très progressive et il faut bien entendre que le Bushido est une construction idéologique hein, qui est d'ailleurs assez récente, qui commence à apparaître d'abord très très timidement. Hein, les premières apparitions du terme Bushido, et sous une forme extrêmement timide, ça va être là, le milieu du XVIe siècle. Il commence à se cristalliser, à adopter une forme canonique au début de la période Edo, c'est-à-dire au XVIIe siècle. Mais en réalité, les formes qui le précèdent revêtent des aspects très très divers. Chaque seigneur, chaque grand personnage peut se fendre d'un petit texte exposant à ses vassaux la façon dont ils considèrent que doit s'exprimer leur loyauté, leur courage. Donc on n'a pas vraiment de forme codifiée telle qu'on vient de l'entendre avant une période très récente. C'est même la véritable codification, celle qu'on a entendue, celle qui se pratique dans les dojos d'arts martiaux, avec ses valeurs extrêmement bien référencées et ses idéogrammes qui leur correspondent, elle date en réalité de la période Meiji et du XXe siècle.
Alors, avant la période Meiji, dites-nous un mot de la période Edo. Vous avez cité le nom. Hideyoshi, il avait déjà commencé à réguler la présence du christianisme. Les chrétiens sont persécutés ou chassés. Puis l'archipel tout entier, sous l'autorité des shoguns Tokugawa, se ferme à l'extérieur. Et il y a la fermeture à l'extérieur et puis des obligations de migration intérieure. La période Edo voit aussi la diminution du pouvoir des daimyo, des grands noms. Une méthode très habile consistait à les pressurer financièrement en les obligeant à la mobilité.
La voilà l'invention géniale des shoguns Tokugawa. Pour être à l'abri des complots, des soulèvements, ils occupent leurs vassaux en permanence. Ils inventent un système dit du service alterné qui consiste à obliger le seigneur féodal à résider une année à Edo, à y laisser constamment en otage femmes et enfants, puis à retourner dans son fief l'année suivante. Il y a 5 grandes routes qui relient les provinces à la capitale shogunale. Dans un sens ou dans l'autre, ces routes sont perpétuellement sillonnées par les longs cortèges des daimyo en mouvement. Accroupi dans son palanquin, voyant à peine les paysages qu'il traverse, le daimyo se laisse mollement bercer au rythme d'une marche interminable.
Plus habile encore que le système des courtisans de Versailles, l'obligation faite au daimyo de dépenser beaucoup d'argent pour devenir fainéant. Et à quoi servent les samouraïs dans cette époque Edo ?
Les samouraïs forment la bureaucratie régionale, la bureaucratie shogunale. Pour l'essentiel, ils se retrouvent tous privés d'un emploi militaire. Certains, les meilleurs bretteurs, trouvent un emploi de maître d'armes. Ils sont contraints de porter le sabre pour afficher leur statut et rappeler à tous d'ailleurs qu'ils ont droit de vie et de mort sur le vilain dont ils estiment qu'il les aurait offensés. C'est heureusement un droit qui est assez peu appliqué pour des raisons assez évidentes, mais c'est un droit dont ils disposent juridiquement. Ces samouraïs servent d'escorte. Beaucoup se retrouvent aussi sans emploi. C'est ce qu'on va appeler les ronin, c'est-à-dire les hommes vagues, les samouraïs privés de maître, soit sous l'effet de la condamnation de leur seigneur, de la dissolution pénale du clan, soit soit parce que leur seigneur a été tué à la bataille et que les voici donc errants à travers les chemins. Donc loin du samouraï idéal et du chevalier errant, on a aussi de très nombreux bandits de grand chemin hein, qui font usage de leurs armes pour brigander.
La fermeture du Japon se termine quand commence l'ère Meiji, que vous évoquiez brièvement, Julien Pelletier. Nous sommes en 1868 et dans les années qui suivent. Alors, peut-être aux bureaucrates samouraïs sont ouvertes maintenant de nouvelles perspectives, parce qu'ils peuvent devenir diplomates, puisque le pays envoie des missionnaires ou des diplomates à l'étranger. Mais enfin, le rôle des samouraïs diminue encore, en fait, sous l'effet de l'occidentalisation qui caractérise l'ère Meiji.
L'ère Meiji est une époque vraiment paradoxale et fascinante. Les samouraïs vont être à la fois les fossoyeurs de leur propre pouvoir, si j'ose dire, puisque les révoltes sont conduites par les samouraïs, et tout spécialement par ceux issus de ces fiefs, de ces fiefs dits Tozama, c'est-à-dire extérieurs, mais extérieurs à la fois du point de vue géographique et du point de vue politique, c'est-à-dire ceux-là même qui doivent traverser tout l'archipel pour se rendre à Edo, la future Tokyo, rendre hommage au shogun. C'est ceux-là qui seront les principaux artisans du retour aux affaires de l'empereur. Et puis en même temps, ils en sont les perdants, puisque effectivement, cette modernisation à marche forcée va aboutir à leur éviction.
Les derniers barouds d'honneur, ce sont dans les années 1870, avec une série de guerres perdues par les chefs samouraïs. Néanmoins, au long des temps, c'est même devenu un instrument de soft power pour les Japonais. La renommée des samouraïs éclate dans la littérature, dans la fiction de cinéma, aujourd'hui dans les mangas. Un reportage Michel Droit en 1958.
Et voici la dernière de nos étapes, l'un des studios de cinéma de Kyoto. Ce décor représente un château fort de l'époque des Tokugawa. On tourne en effet 300 films historiques par an au Japon et la plupart sont réalisés à Kyoto. J'avoue avoir oublié le titre du film dont vous allez voir maintenant tourner l'une des séquences les plus agitées. Cela n'a d'ailleurs aucune importance, car le scénario de ces 300 films historiques est presque toujours le même. Il comprend trois personnages principaux. Premièrement, un bon seigneur et ses fidèles samouraïs. Deuxièmement, un traître et ses non moins fidèles samouraïs. Troisièmement, une princesse dont le cœur et la main sont à conquérir, avec bien entendu la grande bataille au sabre, toujours la même également, comme morceau de bravoure, où le bon finit par l'emporter, cela va de soi, sur le méchant. Mais d'ailleurs, vous assistez en ce moment à la répétition de cette bataille au sabre. Le bon seigneur, c'est lui. Le traître, c'est l'autre. Et la jolie princesse que voilà de dos. Et cette fois, on tourne.
Oubliables, ces films, ou marquants d'une empreinte très forte, et la culture du pays, et l'image du Japon ailleurs.
Les deux, sans doute. Un grand nombre d'entre eux sont oubliables, au sens où, comme l'a bien dit Michel Droit, il s'agit quand même pour beaucoup de clichés récurrents. C'est aussi une part de cette âme du Japon hein, dont on a parlé. Et cette figure héroïque du samouraï ne cesse d'être invoquée constamment, encore aujourd'hui, dans le sport, dans l'exercice du soft power japonais. On la retrouve effectivement dans la bande dessinée, dans le jeu vidéo.
Et c'est comme ça que vous avez constitué un clan de samouraïs au début des années 2000, Julien Pelletier.
Absolument.
Et depuis, vous avez fait amende honorable. Les samouraïs chez Prismal, Crépuscule des samouraïs chez Economica. Cette émission a été préparée par Aurore Juvenel, avec à la réalisation Audrey Ripouille et Maxime Ingrand à la technique.